Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour, bienvenue à l'écoute de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale qui, en ces temps de léthargie forcée pour le monde du spectacle, vous propose aujourd'hui le troisième et dernier volet du cycle consacré à Ludwig van Beethoven pour célébrer à notre manière le 250e anniversaire de la naissance du grand compositeur allemand. Je rappelle que lors des deux numéros précédents, nous avons déjà parcouru les années de jeunesse jusqu'au testament d'Heiligenstadt, puis les années de la grande maturité entre 1805 et 1818-1819, une période jalonnée de chefs-d'œuvre parmi les plus étincelants que Beethoven ait composé, mais marquée aussi dans sa seconde moitié par un épisode dépressif et ce qu'on appellera un passage à vide en termes de création, avant un retour de flamme à partir de 1817. Aujourd'hui, nous allons donc consacrer cette émission au dernier Beethoven, jusqu'à sa mort en 1827, et aux dernières merveilles qu'il nous a laissées, ce qui va nous amener à évoquer son héritage musical et quelques-uns de ceux qu'on peut considérer comme ses héritiers. Ils sont nombreux. Pour ce troisième et ultime numéro de notre cycle Beethoven, je me suis encore entouré de mes camarades Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et de Serge Krichewski, oboïste de l'Orchestre National du Capitole, chef de l'Orchestre En Harmonie, président du Festival Musique au Palais et vice-président des Clés de Saint-Pierre. Ludwig, le crépuscule d'un dieu de la musique, retour arrière vers les années 1818 à 1827.
Mélomanie, retour arrière.
Voilà, nous sommes en 1818-1819. Beethoven compose de nouveau, entre autres, sa très belle et grande 29e sonate pour piano hammerklavier. Nous avions terminé sur cette œuvre lors de l'émission précédente. Il est totalement sourd désormais, si bien qu'il ne communique plus avec son entourage que par écrit, à l'aide de cahiers de conversation. Certains ont été conservés et constituent un témoignage très précieux sur les dernières années du compositeur. On a dit lors de la première émission, en parlant de son unique oratorio, le Christ au Mont des Oliviers, que le versant religieux de l'œuvre de Beethoven n'était pas le plus apparent. Pourtant, en 1818, il va se lancer dans la composition d'une messe qui deviendra la Missa Solemnis, créée en 1822. Alors, on peut se poser une question. Quels étaient ses rapports à la foi ? Était-il croyant ? Était-il resté fidèle à la tradition chrétienne dont il était issu ? Serge Chosy.
Eh bien, d'après les chroniques de l'époque, il a toujours été croyant, sans être pratiquant assidu, mais il possédait vraiment une ferveur chrétienne qui s'est beaucoup accrue au cours des années difficiles qu'il a traversées, et notamment ce qu'en témoignent quelques nombreuses citations de caractère religieux qu'il recopie dans ses cahiers à partir de 1817. C'est tout de même un peu particulier. Et donc, la Missa Solemnis est une œuvre importante, d'après lui sa meilleure œuvre d'ailleurs, vraiment il était très satisfait, et pourtant une œuvre qui lui a beaucoup coûté, puisqu'il a mis 4 ans en fait à la composer, puisqu'il a commencé en 1818, elle n'a été créée qu'en 1822. C'est vraiment une œuvre importante et magnifique.
Alors, concernant ses rapports à la foi, on doit préciser qu'il a beaucoup été dit que Beethoven aurait pu être initié à la franc-maçonnerie. On sait que beaucoup de ses proches, de ses amis étaient francs-maçons. Cela dit, il n'y a absolument rien d'avéré concernant cette appartenance.
Non, exactement. C'est différent de Mozart. Mozart, c'était connu et notoire, mais Beethoven, on n'en sait absolument rien. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'incompatibilité.
Non, à l'époque, il faut dire aussi, la franc-maçonnerie, c'était pas ce que c'est devenu après. Toute la franc-maçonnerie était chrétienne, plus ou moins chrétienne. Donc, il n'était pas du tout impossible d'être à la fois chrétien et franc-maçon sans que ça pose de problème. Et d'ailleurs, sans hésiter à l'afficher. Alors, Serge Krichewski, qu'est-ce que vous en pensez là, du versant religieux de son œuvre, de cette Missa Solemnis qui intervient aussi à un moment où il est vraiment complètement enfermé en lui-même? On peut penser que la foi ait pu être un soutien important pour lui.
Oui, alors à part le Christ au Mont des Oliviers qui serait une œuvre qui est née spontanément, la messe suivante, donc opus 86 en ut majeur, et la Missa Solemnis seraient quand même des commandes. Hein. Une commande pour la Missa Solemnis de la Société des Amis de la Musique de Vienne. Et puis, très rapidement, Beethoven apprenant l'élection de son ami l'archiduc Rodolphe au titre d'évêque d'Olmutz, je crois, d'Olomutz. Donc, il décide de lui dédier cette messe et en réalité, elle ne sera pas du tout prête pour la cérémonie, mais bien après. Voilà. Maintenant, une des difficultés avec Beethoven, alors en particulier avec ses deux dernières grandes œuvres que sont la Missa Solemnis et la 9e symphonie, donc c'est la frontière entre le côté sacré et le côté profane. C'est-à-dire que déjà, il n'a pas pu créer la Missa Solemnis en entier, puisqu'elle a été, nous en parlerons, créée en partie au même concert que la 9e symphonie, mais Metternich donc, avait interdit les œuvres religieuses au concert, en dehors de l'église. Donc, elle sera créée complètement en entier pour la première fois donc à Saint-Pétersbourg, grâce aux soins du prince Galitzine. En tout cas, c'est une œuvre absolument incroyable, c'est vrai, qui prolonge toutes les dimensions qui étaient déjà présentes, qui va très très loin, notamment dans les rapports du texte avec la musique, d'une manière qui n'était pas du tout jusque-là faite traditionnellement. Il y a des moments d'une très grande poésie, nous allons en entendre un. Il y a aussi cet appel toujours présent chez Beethoven dans beaucoup de ses œuvres, même sans texte, à la fraternité, à cet humanisme qui sous-tend toute sa vie. Donc voilà, forcément une œuvre religieuse, mais aussi qui probablement sort un tout petit peu de ce cadre-là aussi.
Et puis là encore, on peut penser qu'il aura voulu se confronter à d'autres messes célèbres, chefs-d'œuvre de Bach Handel qu'il admirait particulièrement.
Son grand travail de préparation a porté sur les maîtres anciens. Il adorait Handel effectivement, et Bach bien entendu, enfin il s'est appuyé sur ses compositeurs.
La Missa Solemnis, œuvre immense, colossale donc, avec de nombreux passages splendides, comme par exemple celui-ci dans le Sanctus. Il commence par un solo de violon qui donne véritablement des frissons. Écoutez cette merveille. La fin du Sanctus, le début du Benedictus de la Missa Solemnis de Beethoven dans une version de Concertgebouw d'Amsterdam sous la direction de Nicolaus Harnoncourt. Et vous vouliez ajouter quelque chose ?
Un tout petit mot. Bon, c'est effectivement une musique sublime avec l'emploi du violon solo qui est relativement rare dans la musique symphonique de Beethoven. Alors, vous avez entendu qu'il y a des chanteurs quand même après qui arrivent. Un portrait, un des plus célèbres de Beethoven, le représente de Joseph Stiller, de l'époque où il écrivait cette Missa Solemnis, avec la partition en main. Portrait un peu idéalisé, mais de cette époque.
Mais merci de nous avoir précisé ce fait, grande œuvre religieuse dont la composition est contemporaine des ultimes sonates pour piano, les 30e, 31e et 32e, opus 109, opus 110 et opus 111 pour la toute dernière, qu'il termine en 1822. Ce sont donc les dernières de ce genre sonate qui l'aura amené peut-être à son plus haut degré d'expression. Est-ce qu'on peut dire que ce sont les plus belles qu'il ait composées, Serge Krichevski ?
Alors, je dirais que tout au long, les 32 sonates, il y a des pics, comme ça, on va dire, on est déjà dans les 3000 mètres, 3000, 4000 mètres, pas loin. Donc, c'est très, très haut comme niveau, c'est extraordinaire. Après, il y a un tel travail tout au long de la vie de Beethoven sur les formes. On a beaucoup parlé de la forme sonate, voilà, cette manière d'insérer des passages lents, de réintégrer l'introduction d'un mouvement. C'est les plus belles parmi les plus grandes, c'est certain. Au niveau des dimensions, après la Hammerklavier, il va plutôt aller vers des dimensions un petit peu plus courtes. On peut dire, par contre, mais on le redira que, d'une manière générale, pour presque toutes les formes, les grandes formes de la musique classique, il y a un avant et un après Beethoven. Et là, c'est sûr que cette somme-là, qui est clôturée par les trois sonates, voilà, ça met déjà un premier...
Oui, alors on reviendra sur son héritage musical tout à l'heure, ça en fait partie, bien entendu. Serge Chosy, il y a un passage dans l'opus 111...
Que vous trouvez
absolument sublime.
Tout à fait incroyable. Non, mais il faut dire que ces trois sonates sont peut-être les plus intenses. Je ne sais pas si on peut dire les plus belles. Enfin, il n'y a pas d'hierarchie à établir là. Mais on a l'impression qu'il invente la forme au fur et à mesure qu'il veut l'adapter à l'expression qu'il a en tête. Et donc, en particulier, dans donc, cette fameuse dernière 32e sonate, elle est en deux mouvements, chose tout à fait incroyable.
Oui,
c'est une forme très inhabituelle. Et le deuxième mouvement, qui s'appelle Arietta, est un mouvement à variation. On sait à quel point Beethoven a porté la variation à son apogée. Et la troisième variation est totalement ahurissante. Vraiment, je conseille à tous les auditeurs de l'écouter avec attention. On a l'impression que Beethoven a inventé le jazz à cette époque-là, dans la manière dont il traite le rythme de cette troisième variation en particulier. Donc, à remarquer.
Alors à ce propos, je crois que Serge Krichevski a une petite anecdote à nous donner sur le côté jazz de Beethoven, parce que vous avez joué sous la direction de Leonard Bernstein, et il vous aurait dit quelque chose à ce sujet.
Effectivement, il aimait beaucoup la musique du jazz, il l'a utilisée dans ses compositions, et puis on travaillait l'ouverture Léonore 3, on a joué en concert plusieurs fois, et il insistait beaucoup sur le démarrage, donc après l'introduction lente de l'Allegro de Léonore 3, voilà, il nous disait c'est Beethoven jazz, pour qu'on ait vraiment le swing, qu'on l'interprète de la meilleure manière possible.
Est-ce que ces dernières sonates, c'est pas aussi une espèce de synthèse entre la forme sonate, la fugue et la variation ?
Alors, il y a dans les dernières œuvres de Beethoven, de toute évidence, toujours un approfondissement vraiment jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle, de combinaisons les plus nouvelles. Je pense que le sens du nouveau, alors autant on pourrait discuter sur la dichotomie entre classique, romantique, autant sur le nouveau, sur ce qu'il pouvait apporter d'inouï, on va dire, jusque-là, était une chose toujours très importante pour lui. Et effectivement, il a fusionné, il a vraiment énormément apporté de personnalités, d'idées nouvelles dont les autres compositeurs se serviront après.
Thomas Mann dira que la 111, l'opus 111, c'était l'adieu à la sonate. Peut-être un peu exagéré tout de même.
C'est peut-être un peu exagéré. Il y a eu de très belles sonates après Beethoven. On a commencé par les magnifiques sonates de Schubert.
Et puis il y aura Brahms et puis d'autres. Alors, ça va être l'occasion de l'écouter, cette ultime sonate pour piano, la 32e opus 111. Il s'agit d'une version de la grande pianiste japonaise Mitsuko Uchida. Thank you. Le premier mouvement de la sonate pour piano numéro 32, opus 11, joué ici par Mitsuko Uchida, donc la dernière du genre pour Beethoven. Ça aurait pu être aussi la dernière de ses œuvres composées pour le piano, mais il va y en avoir encore une autre et de très grande ampleur. C'est ce qu'on a appelé les variations Diabelli. Alors, quelques explications sur la genèse de cette œuvre et sur celui qui leur a donné son nom. Et après, on parlera du principe de la variation. Alors, Serchosi, qui diable est donc ce Diabelli ?
Ah bah, ce cher Diabelli était à la fois éditeur, compositeur, et donc c'est lui-même qui a proposé en 1819 à plusieurs compositeurs d'écrire des variations sur une de ses valses. Il l'a proposé pas seulement à Beethoven, seules les variations écrites par Beethoven ont d'ailleurs survécu vraiment, mais il l'avait proposé à Franz Schubert, à Karl Czerny, à Johann Nepomuk Hummel, et également à l'archiduc Rodolphe d'Autriche. Donc, il s'était vraiment adressé à des grands compositeurs de son temps, et donc, il avait proposé une valse très simple de sa composition, et demandé d'écrire des variations. Alors, étrangement, Beethoven a d'abord trouvé ça ridicule, sans grand intérêt, et puis...
Il s'est pris au jeu.
Il s'est tellement pris au jeu qu'il a composé là son œuvre la plus énorme.
La plus extravagante,
la
presque.
La plus extravagante, la plus incroyable de toute sa production pour piano.
33 variations.
Et oui.
Alors, c'est un peu un pendant des Goldberg, de Bach.
Oui, c'est vrai que c'est le pilier suivant dans l'univers des variations, même s'il y avait eu plusieurs coups d'essai déjà de maître, avec les variations Eroica, avec les variations en ut mineur. Bon, Beethoven est un grand maître de la variation.
Expliquez le principe
avant,
de la variation.
Avant Johannes Brahms. La variation, le principe est très simple. On a une mélodie, en général, qui repose, c'est important de le dire, sur une basse, qui est très caractéristique, et un certain nombre de variations peut s'en suivre, c'est-à-dire soit on varie la mélodie, on ornemente simplement, on modifie un peu la mélodie, on modifie le rythme de la mélodie, ou alors on peut isoler la basse, c'est-à-dire la séquence des notes qui servent de support harmonique, et on modifie complètement les parties aiguës, mais en gardant la basse, c'est ce qui donne également, vous connaissez probablement la fameuse chaconne de Jean-Sébastien Bach, c'est une forme de variation, c'est-à-dire qu'on a toujours une même cellule de quelques notes qui servent de basse, et c'est également le système de la passe à caille qu'on retrouve chez beaucoup d'autres compositeurs baroques ou romantiques ou classiques. Alors ces variations, c'est vrai que c'est un petit peu un microcosme du génie de Beethoven, parce qu'il nous emmène dans ces 33 petites séquences, enfin certaines sont un peu plus longues, mais dans un kaléidoscope d'émotions les unes plus diverses que les autres. On a vraiment, il y a des choses très savantes, il y a des choses qui évoquent Bach aussi, avec des contrepoints en miroir, enfin évidemment... deux fugues, une fugetta et une grande fugue à la fin. Il y a des choses beaucoup plus légères, il y a des choses qui reprennent uniquement les deux ou trois premières notes du thème et qui en font une variation complète. Et il y a même des hommages très inattendus, dont peut-être vous allez
donc
vous
des
faire...
citations.
Alors, des citations, il faut savoir que ça, c'est une chose qui est très très générale pour Beethoven. Je pense qu'au deuxième abord, ce qui lui a plu finalement dans ce thème de Diabelli, c'est sa simplicité, c'est son côté un peu basique, un petit peu, voilà... Et en réalité, très souvent chez Beethoven, plus la structure de base, plus le thème, plus l'idée ou le motif de base est simple, plus il va déboucher sur une œuvre complexe et développée. C'est une chose qui d'ailleurs alimentera également les pensées de compositeurs comme Schumann, Brahms, etc. Mais chez Beethoven, ça prend vraiment toute sa signification. C'est-à-dire, on a une chose très très simple qui débouche finalement par sa simplicité sur des développements immenses.
Est-ce qu'il atteint là aussi une sorte de nouveau sommet dans l'exploitation des possibilités du piano ?
Alors, très certainement, puisque comme on l'a entendu alors aussi dans ce démarrage de la sonate opus 111, numéro 32, on l'avait vu d'ailleurs très tôt dans les tout premiers extraits dans la première mission, il y a cette manière d'utiliser la totalité du clavier. Il y a des choses qui se sont ajoutées depuis, c'est-à-dire l'una corda, la manière de limiter le nombre de cordes frappées par le marteau, l'étrie qui arrive, enfin, toute la technique pianistique utilisée par Beethoven. Et d'ailleurs, Diabelli, si je ne me trompe pas, l'a mis comme préface dans sa première édition des variations les 33 variations, c'est que c'était une œuvre véritablement hors du commun que seul Beethoven avait pu écrire et qui rassemblait tout ce qu'on pouvait écrire pour le piano à l'époque, et c'est ce qui avait été dit des variations Goldberg à peu près.
Ouais. Et puis là encore, c'est une œuvre qui n'est pas à mettre entre toutes les mains, je pense. On ne s'y attaque pas lorsqu'on est jeune pianiste.
Et puis, bon, il y a une magnifique, au moins il y en a beaucoup, mais une magnifique interprétation d'Alfred Brendel en concert au Japon. C'est sûr que pour réussir à mener ça, pour
de bout en bout,
maîtriser l'œuvre en entier, elle fait... 50 minutes, oui. Je crois, au moins. Bon, voilà, c'est extraordinaire, hein. C'est gros travail.
Alors, vous avez cité Fred Brendel, il y a eu de nombreux grands interprètes des variations Diabelli tout de même, et parmi eux, on trouve le pianiste russe Grigori Sokolov, qu'on a la chance de souvent entendre à Toulouse. Il joue ici la 22e variation. Écoutez bien, vous y reconnaîtrez peut-être autre chose. La 22e des 33 variations Diabelli, jouée ici par Grigori Sokolov. Alors, on parlait de citation. Là,
oui,
qu'est-ce qu'on entend passer?
Absolument
là
direct, et en plus, ça illustre très bien ce qu'on disait sur le principe des variations, c'est-à-dire que Beethoven, donc, sous forme d'hommage à Wolfgang Amadeus Mozart, reprend l'aria, première aria de Don Giovanni, qui suit l'ouverture, Notte giorno fatica. Il se rend compte, probablement, ce qui est assez évident, c'est que la structure harmonique du thème de Diabelli correspond exactement à celui de la mélodie de Mozart. Et il a l'idée de la mettre comme ça au milieu de ses variations. Et évidemment, à la fin de cette variation 22, là on a entendu après ça la 23, mais à la fin de la 22, il développe ce motif comme ça en triolet qui est propulsé. C'est-à-dire il développe lui-même cette idée qui est contenue dans l'aria de Mozart.
Et après cette dernière pièce composée pour le piano, nous allons parler maintenant de la dernière symphonie de Beethoven, la 9e, qui est sans doute une des plus célèbres, même si c'est surtout, comme souvent, pour une de ses parties seulement, plus que pour l'ensemble, en l'occurrence le fameux hymne à la joie. Il faut dire que c'est un peu justice tout de même, puisque ce qui est à l'origine de cette 9e symphonie, c'est le poème « L'ode à la joie » de Friedrich von Schiller.
Ah oui, tout à fait. Il a vraiment médité sur cette ode à la joie pendant des années, hein. Il a porté ça en mémoire, il l'a gardé en réserve en quelque sorte pour l'exploiter de manière, bon, évidemment extraordinaire à la fin de sa vie.
Oui, parce que cette 9e symphonie, c'est dans la lignée de la 5e, une évocation musicale du triomphe, de la joie, de la fraternité, un message humaniste, universel, comme Beethoven aimait en faire passer.
Voilà, c'est sûr que bon, cette idée de l'héroïsme qui finit dans la joie, de ce combat héroïque qui finit dans la joie, on le trouve dans plusieurs œuvres de Beethoven et après ça dans d'autres symphonies qui suivront à d'autres époques. Mais c'est vrai que c'est un thème qu'il a, curieusement, qu'il a accompagné. Et d'ailleurs, il a même utilisé certaines des paroles de l'hymne à la joie dans Fidelio. Mais apparemment, ce thème est déjà cité dans une œuvre de Mozart. On l'a retrouvé dans un offertoire. Et Beethoven le travaille. Il y a cette célèbre œuvre avec piano et chœur, qui est la Fantaisie, donc je crois opus 81. Et puis, un peu comme le thème du dernier mouvement de la symphonie héroïque, hein, qu'il avait utilisé à plusieurs reprises. Hein. Voilà, c'est des mélodies comme ça qui le hantent et qu'il travaille jusqu'à la fin et qui trouve son aboutissement le plus élevé dans l'hymne à la joie du final de la 9e.
Alors ce final, aussi, il a encore une innovation parce que Beethoven est le premier à introduire des chœurs dans l'écriture symphonique.
Oui, effectivement, c'est vrai que la symphonie, ça fait partie des idées de décloisonnement, si on peut dire, que Beethoven a eues, c'est-à-dire la symphonie sans chœur et sans voix ne lui suffisait plus, donc il fallait non seulement qu'il augmente les proportions, enfin il avait déjà commencé à augmenter un peu les proportions, mais surtout les dimensions spatiales, enfin le fait d'ajouter des solistes, un texte et un message, hein, puisque même si on a dit que Beethoven n'était pas à proprement parler complètement un romantique, Pâques, il y a déjà l'idée d'un message politique, fraternel, humain et d'une sorte de programme de cette symphonie.
Alors, elle est créée en 1824 et pour une fois, alors on ne sait pas si l'interprétation d'origine était à la hauteur de l'œuvre, mais en tout cas, elle devient très rapidement populaire, cette symphonie, et elle va être jouée un peu partout en Europe, en Prusse, en Angleterre, en France. Alors, en Angleterre, évidemment, ça faisait très plaisir à Beethoven parce que c'était le pays de Handel. Il a rêvé d'y aller, malheureusement, il ne mettra jamais les pieds.
Oui, oui.
Mais voilà, ça a été d'emblée un immense succès.
Effectivement, en Allemagne, bien sûr, et la France, dès la mort de Beethoven, alors 1824, il y a une équipe vraiment très très passionnée avec à sa tête François-Antoine Habneck, donc qui était un grand violoniste qui enseignait au conservatoire, qui fonde la Société des concerts du conservatoire en 1828, donc juste après, et qui va baser toute sa programmation sur les symphonies de Beethoven. Et 1828, c'est le moment où Hector Berlioz a 25 ans, où il va découvrir avec une très grande passion, et il va même emmener ses professeurs écouter les concerts. Il connaissait les partitions sur le papier, mais là on va pouvoir les entendre et il va être absolument bouleversé par toutes les symphonies de Beethoven et par la 9e en particulier.
Alors, on peut difficilement, pour illustrer la 9e symphonie, passer autre chose que l'hymne à la joie. Donc, on va l'écouter tout de suite. Bah, tout le monde connaît, mais c'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi beau. La 9e symphonie de Beethoven et son fameux hymne à la joie, devenu depuis l'hymne européen. Voilà donc, clap de fin pour les symphonies avec cette 9e, mais Beethoven a encore composé de très belles choses, et notamment ses 5 derniers quatuors à cordes entre 1824 et 1826, ceux qui portent les numéros 12 à 16. On en a parlé lors de l'émission précédente, Serge Krzyzewski, encore un genre que Beethoven aura porté très haut.
Ben, on peut dire, oui, là aussi, hein, on a l'impression que ces dernières années, c'est l'adieu. Enfin, évidemment, il ne savait pas forcément qu'il ne dépasserait pas sa 56e année. Voilà, il y a une sorte de point comme ça d'achoppement, hein, véritablement, pour l'histoire de la musique. Hein, la sonate pour piano, la symphonie, le quatuor à cordes à présent, avec un genre. Il a un apport extraordinaire à cette forme, hein, qui est déjà, alors qu'elle n'est pas si ancienne, hein, qui est déjà un très très haut niveau et qui voilà, embarrassera bien les compositeurs allemands à la suite. Hein.
Ouais, comment faire après Beethoven, mais ça c'est vrai dans ce domaine comme dans d'autres. Est-ce qu'ils sont souvent joués ces quatuors à cordes, notamment les 5 derniers, parce qu'ils sont quand même réputés pour être très difficiles.
Alors effectivement, les quatuors avaient été écrits en présence de Schuppanzig et dans les moments où il était à Vienne.
Le grand violoniste.
Il s'était arrêté... quand il était parti à Saint-Pétersbourg, là, il s'y remet. Et souvent aussi, ce sont des commandes, mais ils restent extrêmement difficiles. Alors, dès l'époque, évidemment, ils ont été très, très peu de gens, à part le quatuor de Schuppanzig, pouvaient les jouer. Et actuellement, ils restent extrêmement difficiles. Ils sont souvent assez longs, mais pas toujours, mais surtout complexes. C'est-à-dire que, en fait, ils ont une forme. Alors, on a dit beaucoup qui étaient en tout d'un coup 5, 6, 7 mouvements. En réalité, très souvent, la forme serait réductible à une forme classique, en 4 mouvements la plupart du temps, avec avec des mouvements courts qui servent d'introduction ou de transition entre deux mouvements, etc. Donc on a parfois même une transition puis une introduction, ce qui rajoute deux mouvements, des mouvements très courts. Mais c'est surtout qu'il y a une telle masse de nouvelles idées, enfin on a l'impression que bon, Beethoven est sur le point de quitter la Terre, mais enfin il regorge encore d'idées extraordinaires qui vont servir aux compositeurs qui lui survivront.
Je reviens sur les cinq derniers, là. Parmi ces cinq, lequel est votre préféré ? Ils sont tous très beaux, évidemment, mais est-ce qu'il y en a un qui vous touche plus que les autres ?
Encore une fois, voilà une hiérarchie tellement difficile à établir.
Ah non, mais là, c'est un goût personnel. Hein.
Oui, goût personnel. Moi, j'avoue que l'âpreté du 14e me plaît énormément. Vraiment, c'est un quatuor incroyable, avec des contrastes ahurissants. Vraiment, ouais, c'est peut-être celui-là qui m'attire le plus.
Serge Krichevski.
Oui, ben, moi, je les aime, je dirais que je les aime tous. Ce 14e a une originalité, déjà la tonalité, des mouvements, une forme effectivement assez curieuse, mais bon, avec des mouvements courts. Effectivement, comme disait Serge Chosy, des affects très très divers, hein. Peut-être aussi comme dans cette autre œuvre en do dièse qui est la cinquième symphonie de Mahler, qui a des contrastes très très grands. Donc voilà, il y a vraiment apprécié. Il y a des moments qui sont un peu torrentiels, comme le cinquième mouvement, des choses de... Puis un final aussi, souvent tragique, et puis des moments beaucoup plus calmes. Souvent, dans ces quatuors, des adagios splendides, magnifiques, avec des variations, effectivement, une forme qui lui était très très chère jusqu'au bout.
Eh bien, ça tombe bien, parce que c'est un extrait du 14e quatuor à cordes que j'ai choisi de vous faire écouter, une version du quatuor Alban Berg. Voici le 7e et dernier mouvement Allegro. Le dernier mouvement Allegro du quatuor à cordes numéro 14 de Beethoven, interprété ici par le quatuor Alban Berg. Et c'est avec cette œuvre que nous terminons notre parcours dans la vie et l'œuvre de Beethoven. Il aura d'autres projets, notamment une 10e symphonie, un opéra d'après le Faust de Goethe, nous en avions parlé lors de la 2e émission, un autre oratorio et même un requiem. Tous ces projets, la maladie et la mort ne lui laisseront pas le temps de les composer. Il meurt à Vienne le 26 mars 1827, à l'âge de 56 ans, officiellement des suites d'une double pneumonie. Mais comme souvent à cette époque, la cause de sa mort reste incertaine. Il y a plusieurs hypothèses, Serge Chosy.
Oui, on a fait d'ailleurs une autopsie sur son corps et on a remarqué des problèmes osseux dans son crâne et on a parlé d'une maladie de Paget, peut-être. Puis on a parlé d'une éventualité d'une syphilis, puis peut-être du saturnisme avec des traitements au plomb. On ne sait pas vraiment, hein, évidemment, à cette époque-là. Même les autopsies ne livraient pas leurs secrets concernant la mort des gens.
Oui, à cette époque. Sauf si on mourait d'un accident, dans un duel ou à la guerre, on ne savait jamais exactement les causes de la mort. Alors, on en vient à l'héritage que laisse Beethoven. Il est immense, bien sûr. Quelles sont les voies qu'il a ouvertes ? Qu'a-t-il inventé ? Qu'est-ce qu'il a permis de développer plus que quiconque ?
C'est une question immense. On peut dire que il y a peu de gens qui ont échappé à la postérité de la pensée de Beethoven. C'est-à-dire, il a véritablement inspiré, je crois, absolument tout le monde, hein, y compris toute l'école française aux environs de 1900, qui, avec un petit peu de mauvaise foi quand même, a considéré que cette dimension comme ça de travail thématique, d'acharnement parfois, était une chose pesante et qu'il fallait s'en éloigner, etc. Mais sinon, à part ça, tous les compositeurs, dès le début, évidemment. Alors, il y a des phénomènes de levée d'inhibition à la mort de Beethoven, comme pour Schubert, qui écrit en une année après la mort de Beethoven une grande quantité de chefs-d'œuvre avant de mourir lui-même très vite. Mais il y a des compositeurs comme Schumann, Brahms, qui sont écrasés par l'héritage et puis qui réussissent quand même à créer de nouvelles choses. Bon, même dans les formes dans lesquelles Beethoven était le maître, hein, la symphonie, le quatuor, ils réussissent à écrire des choses extraordinaires avant qu'on change d'esthétique complètement. Tous les compositeurs romantiques ont été touchés par Beethoven. Par exemple, le processus au début du final de la 9e, de faire réentendre tous les thèmes des mouvements précédents. Ce procédé a été réutilisé par César Franck dans son quatuor à cordes. L'extrait que vous avez passé de la sonate opus 111 est textuellement cité par Gustav Mahler dans le mouvement, le final de la symphonie Résurrection.
La deuxième,
qui est là aussi symphonie en ut mineur comme la 5e de Beethoven. Également, symphonie, grande symphonie avec chœur, pour une fois, chœur et soliste, après la première qui était uniquement instrumentale. Et on sait combien Mahler tenait à cette présence des chœurs et des voix dans la symphonie, et donc de cette manière à prolonger véritablement l'œuvre de Beethoven. Wagner, à son tour, a beaucoup dit que sa vocation de compositeur était venue en ayant entendu en concert la 9e symphonie, peut-être l'interprétation de Leipzig, justement, dont vous parliez tout à l'heure, après, dans les années 30, puisque Wagner était né en 13, donc il a dû l'entendre très jeune comme ça interprété, et il a demandé, il a peut-être même imposé qu'elle soit jouée au festival de Bayreuth. Voilà. Après, au niveau de l'écriture, alors des compositeurs comme Berlioz aussi, qui avait été marqué par les interprétations d'Abneck dans les années 1830. En même temps, le paradoxe, c'est qu'en 1830, lui-même, il écrit la Symphonie Fantastique, qui constitue une rupture extraordinaire par rapport à l'univers de Beethoven, et qui en même temps, et voilà, il s'en réclamait lui-même beaucoup. Comme Beethoven, il était passionné par Goethe, Shakespeare. Il y a vraiment des points communs très très grands. Et puis, pour la musique de chambre, c'est pareil, hein, pour la sonate pour piano, hein, vous avez peut-être quelque chose à nous faire entendre.
Alors justement, Brahms, voilà. J'allais vous proposer d'écouter maintenant la première sonate pour piano de Johannes Brahms. On va écouter le tout début. C'est une version interprétée par Christian Zimmermann, et après, on parlera de l'œuvre de Beethoven qui manifestement est cité dans cette première sonate de Brahms. Thank you. la première sonate pour piano de Johannes Brahms, jouée ici par Christian Zimmermann. Alors, quelle est l'œuvre de Beethoven qui est citée dans ce mouvement?
Je crois que ça saute aux oreilles, on pourrait dire. C'est la hammerklavier, le début de la sonate hammerklavier. On a l'impression qu'il reprend la même structure, notamment rythmique.
Oui, le thème est vraiment le même. Bon, après, il nous emmène un peu ailleurs, notamment parce que Schubert est passé par là, et puis c'est déjà un peu du Brahms, même s'il a 20 ans. Oui. Mais le thème est strictement... Après, il y a aussi des choses dans les symphonies, dans la symphonie, alors toujours la tonalité de do mineur, oui, dans la première symphonie.
La première symphonie, Brahms, pour un premier mouvement.
Première symphonie qu'il a mis un temps fou à oser composer, puisqu'il était totalement inhibé par la réputation de Beethoven. Donc il avait 41 ans quand il a composé sa première symphonie.
Par contre, c'est vrai que quelqu'un comme Debussy, qui se permettait d'écrire, il me semblait que depuis Beethoven, la preuve de l'inutilité de la symphonie était faite. Alors c'est à la fois toujours un peu ironique, comme ça, et mordant, mais ça signifie bien que...
Ça, c'est Debussy à propos de Brahms. Qui n'aimait pas du tout.
À propos de Beethoven.
Oui, mais le fait qu'on ait continué à faire des symphonies après Beethoven, c'est pas Brahms qui s'en prenait en disant ça?
Ah, peut-être, alors peut-être. En tout cas, globalement, effectivement, la somme qu'a représentée... D'ailleurs, il y a les compositeurs romantiques, en tout cas, en Allemagne et en France, ont été peu nombreux à écrire des grands corpus de symphonies. Et il y a Mahler, Bruckner, qui ont voulu absolument dépasser Beethoven et qui n'ont pas réussi à cause...
Malédiction de la 9e.
Voilà, le chiffre 9 ne leur portait pas chance.
Il n'y a pas eu de 10e de Mahler, il n'y a pas eu de 10e de Bruckner, et il n'y avait pas eu non plus de 10e de Beethoven.
Ni de Dvorak, d'ailleurs.
Alors... Plus près de nous, on parle des héritiers, ça s'est prolongé même au XXe siècle, assez largement, et on peut citer alors peut-être Stravinsky dans certaines œuvres.
Oui, alors Stravinsky qui considérait que par exemple la Grande Fugue, qui est un des finales que Beethoven aura isolé d'un de ses quatuors à cordes, il considérait que c'était une pièce extraordinaire qui, même à l'époque, c'est-à-dire dans les années certainement 1930-1940, constituait encore une œuvre d'une modernité fracassante. Il a utilisé, puisque c'est devenu après le Sacre et à partir des années 20, un compositeur néoclassique, donc une œuvre étonnante qui est assez rarement donnée en France, Oedipe Roy, Oedipus Rex, sur un texte en latin. Il utilise une chose qui, de toute évidence, rappelle la cinquième. En plus, c'est un moment justement. C'est une œuvre d'après Sophocle, où il est question de la tragédie d'Oedipe avec Jocaste, etc. Les oracles mentent, et voilà comment Stravinsky le décrit musicalement.
On va entendre justement un extrait de Deep Croix d'Igor Stravinsky. Donc, c'est une version dirigée par Leonard Bernstein avec la chanteuse Tatiana Troyanos dans le rôle de Jocaste. Voilà, Oedipe Roy d'Igor Stravinsky, qui n'est pas son œuvre la plus jouée ni la plus connue, une version donc dirigée par Leonard Bernstein avec Tatiana Troyanos dans le rôle de Jocaste. Oui, alors donc là, c'est la cinquième qu'on entend en filigrane.
Oui, c'est vrai que c'est la cinquième. Après, il y a également des Faya dans le tricorne qui utilise. Mais ce motif des quatre notes, avec la chute de tierce, c'est devenu vraiment comme ça une sorte de symbole de Beethoven, de la tragédie, du destin. Et ça a même parfois été moqué par certains compositeurs, mais en tout cas réutilisé énormément.
Voilà, beaucoup d'artistes seront inspirés par la musique de Beethoven jusqu'au XXe siècle, avec parfois des prolongements inattendus, insolites. Léo Ferré a écrit un texte en hommage à Beethoven sur la musique de l'ouverture d'Egmont, un texte qu'il a titré tout simplement Ludwig. On sait que Ferré aimait beaucoup la musique classique, il lui est même arrivé de diriger de grands orchestres symphoniques. Il a dirigé la cinquième de Beethoven. Il voulait amener la musique savante dans la rue. Qu'est-ce que vous pensez du texte qu'il a écrit là, donc, sur cette ouverture d'Egmont? Est-ce que c'est pas tout simplement avant tout un hommage de l'anarchiste Ferré au côté insoumis, irrespectueux de Beethoven, irrespectueux pour les puissants?
Oui, alors Léo Ferré s'est permis des choses qui parfois peuvent paraître un peu outrées, mais enfin, voilà, sa pensée avec tout son engagement, toute sa sincérité. Et je ne sais pas si Gainsbourg avait commencé avant lui, mais en tout cas, associer une parole parlée sur un texte musical d'une manière un peu mélodramatique et bon, avec grand talent, hein, c'est-à-dire évidemment, il faut bien sentir le rythme de la musique, ne pas parler n'importe quand. La nature du texte, voilà, effectivement, c'est toujours des textes engagés et très bon, il y a des choses très belles, hein, il y a des choses un peu excessives, comme toujours, mais dans l'ensemble, on s'y fait.
Ferré, qui enfant avait vu Ravel assister à la création de l'enfant au sortilège à Monte Carlo, dirigé je crois par Toscanini à l'époque, et donc il avait assisté à ça, et c'est là qu'est né sans doute son amour pour la musique classique. Et Ravel lui avait parlé, il avait 8 ou 9 ans, quelque chose comme ça.
Ah mais il a dirigé du Ravel aussi.
Ouais, ah oui, il adorait Ravel, il adorait Bach.
Oui, oui, et d'ailleurs c'est les compositeurs qui ont écrit pour ses chansons avaient un grand talent, et souvent, enfin ils étaient dans la mouvance comme ça de l'écriture de française.
Alors je propose qu'on l'écoute, ce texte Ludwig sur l'ouverture d'Egmont, et c'est évidemment Léo Ferré qui le dit. Écoutez, c'est vraiment, ça vaut le coup d'être découvert si vous ne connaissez pas.
Au fond d'une guitare enragée à l'automne, il y avait du sang comme un dièse mouillé. C'était un bonne. S'il fallait parler de cette romance en allée dans la rue, avec ses habits du dimanche, alors que la semaine s'étire un peu mieux, au bout de l'incertain et du tragique, s'il fallait chanter cet éternel recommencement qui tient de l'habitude et du savoir constant et vérifié par les arbres, par les crépuscules teints, par les regards cachés derrière la pensée perverse ou religieuse, s'il fallait dire un peu de cette insouciance et qui nous mène au jardin des faillites et de la solitude, s'il fallait, alors remonterait du fond de nos cagibis inconscients, du fond de notre vouloir le plus profond, l'incertitude. Le temps précis et incalculé est toujours indemne. Alors, s'emballerait notre habitude retenue par la défense de s'insurger, de s'éprendre, de s'illusionner. Coriolan n'était qu'un prétexte. Egmont, parlons-en. Tu te souviens? Sur cette plage tout en gravier, cette plage défaite au nom d'une certaine compromission entre la mer et le spectacle, cette plage que tu voulais défaite et soumise à ton imaginaire chorégraphie d'enfant seul et triste. Tu t'en souviens, dis? Tu t'en souviens?
Voilà, Léo Ferré, texte magnifique, Ludwig, en hommage à Beethoven sur la musique de l'ouverture d'Egmont. C'est prenant, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ah, ouais. Tout à fait, c'est très bien fait. Et puis c'est très sincère, on sent qu'il y a une passion.
Oui, c'est un très intense, comme toujours chez Léo Ferré, c'est pas de la demi-mesure. Bon, il a dû vraiment vivre ça, enfin vivre cette musique très fortement. Et il y a aussi d'autres, des artistes plus anciens aussi, qui ont été très marqués par le personnage de Beethoven.
Oui, hein, parce que là aussi on sent à quel point il est touché par l'existence.
Voilà, par l'existence, la personnalité. Bon, des gens comme Rodin, Bourdelle, des gens comme Romain Rolland qui écrivent aussi un roman, le roman Jean-Christophe. Enfin, combien le personnage, la personnalité de Beethoven et son destin ont marqué tous les artistes qui ont suivi.
Alors, on va changer un peu de registre. On a appris une triste nouvelle samedi dernier, la mort de Maddy Mesplet, la grande soprano née à Toulouse, où elle avait fait ses études musicales jusqu'à intégrer le conservatoire de la ville. Elle y a vécu ses dernières années, elle avait 89 ans. Elle a chanté avec les plus grands, interprété les plus grands rôles du répertoire. Je n'oublie pas qu'elle fut aussi une magnifique interprète de la mélodie française où elle excellait. Autour de la table de ce studio, on l'a tous croisée ou rencontrée, mais vous, Serge Chosy, vous l'avez vue et entendue sur scène. Quels souvenirs vous garderez de cette femme, de cet artiste?
Alors, il y a plusieurs caractéristiques. D'abord, c'est une grande musicienne. Elle est pianiste. Elle a eu un premier prix de piano du conservatoire. Et je sais qu'il lui est arrivé de s'accompagner elle-même dans des mélodies, de s'accompagner au piano. Et alors, donc, vraiment musicienne, avec une voix, avec un ambitus tout à fait impressionnant, hein, qui succédait à une autre grande soprano colorato, qui était Mado Robin à l'époque. Et c'est la disparition de Mado Robin qui lui a permis, finalement, de reprendre le rôle de l'acmé que Mado Robin avait marqué, évidemment, de son saut incroyable. Donc, elle a amené dans le monde entier ces répertoires-là, puisqu'elle ne s'est pas contentée que de chanter l'acmé ou les œuvres françaises, mais elle a chanté aussi la Reine de la Nuit.
Et Lucia di Lammermoor.
Lucia, que j'ai vue à Toulouse, d'ailleurs. Alors, avec une chose incroyable, elle a chanté Lucia à l'époque où on le chantait en français, mais elle avait imposé de chanter ces deux airs en italien. Donc, tout était en français, sauf les deux airs principaux de Lucia.
Elle a fait un Rigoletto avec Gabriel Bacchier.
Rigoletto,
qui nous a quitté il y a deux semaines. Et, enfin, voilà.
Bon, elle chantait beaucoup Zerbinette, de Richard Strauss aussi, d'Ariane Naxos. Et bon, elle adorait Richard Strauss. Elle adorait Wagner, dont elle n'a pu chanter que L'Oiseau de Siegfried. Et elle avait même confié qu'elle était désolée de ne pas pouvoir chanter Isolde et Brunhilde, ce qu'elle aurait beaucoup aimé faire, évidemment.
Serge Krichevski, qu'est-ce que vous pensiez de la chanteuse? Je ne sais pas si vous l'avez rencontrée personnellement.
Non, alors je l'ai croisée. Je l'ai croisée notamment dans des salles d'opéra. Elle est venue écouter les représentations du Capitole. Elle était amie de l'orchestre et de Michel Plasson. Donc on l'a vue hein, régulièrement, autant qu'elle pouvait se déplacer. Mais je n'ai pas eu l'honneur de jouer à côté d'elle. Hein. Je ne sais pas à quel moment elle a arrêté de chanter.
Je crois qu'elle a arrêté dans les années fin des années 70 déjà. En tout cas la scène. Hein. Ouais, elle a fait des enregistrements après.
Oui.
Son dernier CD, c'est un CD de mélodie française.
Je sais qu'elle a participé aux premiers enregistrements de la série Michel Plasson.
Oui, les opérettes,
les Offenbach. Donc ça, c'était dans les années 75.
Je crois que c'est 76, peut-être la dernière fois qu'elle a fait quelque chose avec Michel Plasson et l'orchestre du Capitole.
Puis elle était très impliquée dans la pédagogie aussi, elle enseignait beaucoup.
La transmission.
Et puis c'était vraiment une personnalité tout à fait touchante en ce sens qu'elle jouait pas du tout la star.
Ah non,
elle était très simple. Elle était très simple, très directe. J'ai des souvenirs pour avoir assisté avec elle à un festival de Bayreuth, même plusieurs festivals de Bayreuth. Des fous rires qu'elle prenait, mais c'était mémorable. Elle avait des explosions de rire incroyables. Donc une personnalité particulière.
Voilà, une personnalité très attachante et une immense chanteuse. On lui rendra un hommage un peu plus long là, dans une prochaine émission. Peut-être qu'on va grouper ça d'ailleurs avec l'hommage à Gabriel Bacchier. Ce sera l'occasion. Voilà, Maddy Mespé, qui avait 89 ans et qui nous a quittés samedi dernier, le 30 mai. C'est la fin de ce numéro de Mélomanie et par là même, celle de ce cycle d'émissions consacré à Ludwig van Beethoven pour le 250e anniversaire de la naissance du compositeur. Encore tous mes remerciements à vous deux, Serge Ozy et Serge Krichevski, pour votre érudition, votre passion et pour les conseils précieux que vous m'avez donnés pour préparer ces trois numéros. J'espère que nos auditeurs auront pris autant de plaisir à les écouter que nous en avons eu à les animer. Nous sommes loin, il va sans dire, d'avoir fait le tour de l'œuvre et du mystère Beethoven. Il y aurait eu encore beaucoup de choses à dire sur ce géant de la musique. Bien que nous ayons diffusé de très nombreux extraits de ses œuvres, je sais que certains s'étonneront de ne pas avoir entendu celle-ci ou celle-là, ce qui aura pu leur sembler être de fâcheux oublis. Pardon si c'est le cas, mais que voulez-vous, on n'en a jamais fini avec Beethoven, c'est le propre des génies de nous échapper toujours un peu. La semaine prochaine, nous reviendrons à l'actualité musicale régionale, puisque des saisons de concerts auront lieu cet été, d'autres viennent d'être dévoilées, et nous allons bien sûr vous présenter leur programme, comme le veut la vocation de cette émission. Merci à Christophe Aubry d'avoir assuré la régie technique de ce numéro, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci de nous rester fidèles. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine.